L'écho du parquet. L'écho du parquet. Musique et danse traditionnelle. L'émission qui met le feu au plancher.
Saison 3. Et bonjour, c'est l'écho du parquet pour notre 45e émission qui est consacrée cette semaine au groupe Mirailles. On les a rencontrés et on vous en parlera.
Et dans cette émission, on parle souvent d'éducation populaire, hein, ce qui est un peu dans l'ADN des musiques traditionnelles. Et nous en sommes convaincus, et vous aussi certainement si vous nous écoutez, c'est que l'idée que les associations sont très précieuses dans ce cadre-là. Et nous, on pense notamment aux associations qui font de la radio, qui font beaucoup d'éducation populaire, de l'éducation aux médias, du lien social, du journalisme de proximité, etc. etc. Et donc ces radios associatives, comme celles sur lesquelles vous êtes peut-être en train de nous écouter, Radio Méga, Fréquence 7 ou Radio Saint-Ferréol en Drôme-Ardèche, eh ben, elles sont un peu en difficulté aujourd'hui. Et donc, même s'il y a des chances que vous nous écoutiez en podcast sur notre audioblog Arte Radio, il y a sans doute une association, une radio associative qui fait le même genre de boulot dans son coin et on voudrait vous en parler un petit peu.
Et d'ailleurs, si on voulait vous en parler, c'est parce qu'elles sont particulièrement menacées aujourd'hui par une réduction du fonds de soutien, qui est une enveloppe qui est gérée par le ministère de la Culture, qui permet de les faire vivre, et qui est menacée par le projet de loi finances 2026 du gouvernement, qui en prévoit une réduction de 16 millions d'euros, c'est-à-dire 44% du montant habituel de cette enveloppe. Autant dire que c'est la mort assurée à plus ou moins long terme pour des centaines de radios qui ne peuvent difficilement survivre sans, puisque leur ambition n'est pas d'avoir des activités lucratives.
Pas des radios commerciales.
Voilà. Et sans publicité à l'antenne. Une tendance qui touche aussi, on sait, hein, plus largement le secteur associatif, la culture, l'ESS, voilà, ça ne va pas en s'arrangeant avec cette nouvelle attaque sur les radios. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'en attendant un renversement massif de la situation...
Et vivement le renversement massif.
Voilà, si vous le pouvez, en attendant, faites donc un don à la radio associative de votre coin.
Thank you. Et voilà, c'est la grosse nouveauté du moment dans l'écho du parquet. C'était le titre Happy Step sur le nouvel album du Narragonia Quartet. Ce nouvel album s'appelle Nehalenia. Ils ont la science des titres en un mot qui font heroic fantasy tout en étant peut-être du flamand, je ne sais pas. Avec encore
sûrement,
une fois,
c'est sûrement du flamand.
Sûrement. Avec encore une fois une jolie pochette avec une libellule, ce qui est sans doute lié au fait que Toon van Mierlo, qui a composé tous les morceaux du disque, est aussi biologiste de formation et spécialiste des libellules. Voilà. Nous abordons la 20e année.
Il y a souvent des insectes quand même sur leur... Pas toujours
tout
une libellule,
oui.
Mais c'est toujours un insecte. Hein.
Ouais, il y a comme un concept là. Et donc on aborde la 20e année d'existence du Narragonia Quartet, qui est une extension du duo Narragonia, celui qui réunit Toon van Mierlo et Pascal Rubens. Et là, c'est le 4e album de cette formation élargie, dans laquelle le duo est complété par Luc Pilarts au violon et Martin de Combel à la guitare. Voilà. Pas de révolution dans le son du groupe, mais c'est toujours aussi bon. À la fois très joli et tout à fait virtuose, comme vous avez pu l'entendre sur ce morceau. Et on va dire que le groupe assume vraiment ses influences en ce qui concerne leur approche, notamment de l'accordéon diatonique, puisque le 6e morceau s'intitule « We all steal from Andy and we love it ».
Andy Cutting.
Oui, nous avons tous beaucoup emprunté, volé à Andy et on adore ça. Andy Cutting, que vous pouvez entendre dans l'épisode 38 de l'écho du parquet où on l'a interviewé. Voilà. On n'en dira pas plus, on vous laisse vous ruer sur l'album. Et nous, on garde nos interrogations et nos commentaires sur Narragonia pour le jour où l'on arrivera enfin à les croiser dans un festival où on aurait et eux et nous un tout petit peu de temps pour se poser et faire un entretien qu'on vous diffusera plus tard dans l'émission.
Oh,
là, on suppose que vous avez monté le volume à fond et vous vous dites « Quoi, trop génial ce morceau !» Eh bien, on vient d'écouter « Quand Yeuser Petitona » du groupe Mirailley, qui a sorti son premier disque au printemps dernier. Et puis voilà, l'album tout entier est à écouter en boucle. Hein. Là, c'était vraiment juste un morceau, mais ruez-vous dessus aussi. Et il se trouve qu'on a justement rencontré Mirailley.
Oh, mais comme ça tombe bien.
Voilà, cet été. On vous laisse en leur compagnie.
Bonjour, je m'appelle Louis, donc je joue des cornemuses du centre dans Mirailley et un petit peu de banjo. Et comment je suis venu à la musique trad? Par totalement hasard, je n'en ai aucune idée. J'ai dit à mes parents que je voulais jouer de la cornemuse et il s'est avéré que j'habitais à Châteauroux. Et donc à l'école de musique de Châteauroux, il y a une classe de cornemuse. Donc j'imagine que j'ai dû en voir, en entendre quelque part. Et donc bah, je suis sans aucune culture familiale, on va dire, de musique trad, quoi. Je suis allé faire de la cornemuse et au fur et à mesure, bah, j'en ai fait de plus en plus et aujourd'hui c'est mon métier. Voilà.
Et moi c'est Jacques Puech, du coup je joue de la cabrette et je chante. Et alors comment je suis arrivé à la musique, moi c'est un hasard aussi, mais pas tout à fait le même. C'est que moi mes parents m'ont inscrit à l'école de musique en éveil musical et j'ai eu le choix entre à peu près tous les instruments que j'avais été voir en éveil musical de l'école de musique et j'ai choisi la cabrette. Pourquoi ? Pour plein de raisons, mais il y a une part de hasard aussi. Mais il y a aussi la famille qui disait bah, « la cabrette, c'est cool quand même. » Plutôt que de faire du violon alto, la cabrette, c'est bien.
Ouais. Est-ce que ta famille est dans les musiques trad ?
Mais non, pas du tout. En fait, ils ne sont pas dans les musiques trad telles qu'on les connaît aujourd'hui. Après, mes grands-parents étaient danseurs de bal musette. En fait, ils écoutaient beaucoup d'accordéon. Et mon grand-père aurait voulu jouer de la cabrette quand il était très jeune. Il n'en a pas joué. Il a joué un peu d'accordéon diatonique, mais... Vraiment, c'est même pas amateur, c'était plus que ça. Et voilà, donc c'est lui qui a fait « Vas-y, ouais, si c'est cool la cabrette, quoi. »
Je m'appelle Clémence Cognier, je joue du violon et je chante dans Mirailley. Comment je suis venue à la musique? Mes deux parents sont musiciens amateurs. Et donc très vite, ça a été un truc familial quoi, de jouer de la musique. Et je suis née à Clermont-Ferrand. Mes parents étaient déjà dans la musique trad. Ils sont originaires du Bourbonnais. Ils faisaient du folklore dans le Bourbonnais. Et quand ils sont arrivés à Clermont-Ferrand, ils se sont rapprochés de l'association Les Braillots. Voilà, et donc moi j'ai grandi à cet endroit-là, j'ai fait mes études parallèlement, j'ai fait du violon classique au conservatoire parce que c'est là où on habitait, Clermont, c'était le plus pratique et le moins cher pour apprendre le violon, c'est ça que je voulais jouer de toute façon. Ouais, quand on... Je dis on parce qu'avec Antoine, on est frères et sœurs, voilà. Et on a grandi, et eux ils jouaient sur scène dans leur groupe, mais nos parents ils jouaient, ils avaient un groupe de bal folk, quoi, de bal trad, et donc ils nous amenaient, quoi. Moi, j'ai joué du violon en papier et en carton avec eux sur scène.
C'était l'évidence d'avoir un vrai violon.
Ouais, bah voilà, j'ai un peu bloqué sur cet instrument. Et donc, j'ai appris le violon classique au conservatoire. Et puis, j'ai aussi grandi avec toute une bande de copains au Gamounet chez les Braillots. Donc, je suis venue à la musique trad. Je suis pas trop venue à la musique trad. Je suis née dedans, quoi.
Ouais, ok.
Voilà.
Salut,
Salut.
Te présenter, mais j'imagine
oui.
Qu'après c'est la même histoire familiale.
Alors c'est la même, pas pareil, c'est toujours pareil. Hein. C'est on est des humains différents, mais oui, on a des parcours similaires avec Clémence à une année près, parce que moi, je suis plus jeune d'un an que Clémence. Et moi j'ai pas fait le conservatoire, mais j'ai fait des MJC avec de la guitare électrique notamment, de la guitare sèche aussi. Mais voilà, on a toujours eu un parcours parallèle avec les Braillots où c'était vraiment où on est rentré dedans quand on était petit, quand nos parents se sont impliqués dans cette association bénévolement. C'est une association d'éducation populaire, mais je débarque, donc j'imagine que ça a déjà été dit. En gros, c'est une association qui permet ce genre de choses, c'est-à-dire que tu es un adulte, tu débarques avec des enfants, en fait, il se passe des choses pour tout le monde, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à manger pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est une asso qui se construit comme ça, perpétuellement. C'est multigénérationnel, c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais c'est fondateur pour cette association, de faire ça comme ça, pour tout le monde, tout le temps, quoi. C'est très éducation populaire, vraiment de fond en comble, c'est là-dessus que ça se passe, quoi.
Et alors, pourquoi tu viens faire du banjo à un moment? Pourquoi tu fais pas du trad avec la guitare? Là, on en est au moment où tu fais de la guitare et dans les MJC, pourquoi le banjo?
Après, j'ai fait longtemps de la guitare quand même dans la musique trad, et je me suis mis à faire de plus en plus de mélodies à la guitare, de mélodie trad à la guitare, avec un jeu bourdonnant qui correspond au jeu de violon, un peu des violonneux aussi, du centre France. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, il y a deux personnes notamment à qui je pense maintenant, qui sont Olivier Sulpice, qui joue dans Bounia Sound, qui joue dans Les Barreaux Verts, qui joue dans Debout sur le Zinc, et Eric Desgrugillers. Qui dans les années, on va dire, entre 2000 et 2010, ont commencé à s'intéresser au banjo dans la musique du centre France. Ce qui est un truc qui a toujours été un petit peu là, notamment après le revival folk, mais qui n'a jamais vraiment été un instrument principal de jeu, quoi. Et du coup, moi, je suis arrivé à ce moment-là, en fait, dans les années 2010, je passais mon bac et voilà, j'étais en plein jeu, j'étais en pleine ascension de musique, on va dire. Et en fait, ils m'ont cueilli à ce moment-là, quoi. Du coup, je me suis mis au banjo aussi par coïncidence, parce que des amis de mes parents, en fait, nous ont filé un banjo qu'on a fait retaper. Et je me suis mis à en jouer et depuis, c'est mon instrument principal. Okay. Voilà.
Et maintenant, on peut dire qu'il y a quand même une sacrée mode du banjo. Est-ce que c'est ça, c'est ta génération qui fait que on a vu des banjos sur scène et ça donne envie? Est-ce que d'ailleurs, moi je vois ça comme ça, il y a une sacrée mode, mais peut-être non?
Si quand même. Enfin, il y a un truc de là, moi ça me fait très très plaisir parce que là, par exemple, on sort des Volcaniques, le festival le stage long des Braillots de début juillet, qui est aussi un festival. Et par exemple, on a animé le stage avec Emma Coustet et Elisa Trébouville, qui sont deux banjoistes de sacrée qualité, qui sont bien bien présentes dans le paysage des musiques traditionnelles en ce moment. On a animé le stage à trois et on a eu 13 stagiaires. C'est vraiment une grande première pour le banjo dans le centre France, parce que vraiment c'est la première fois qu'on a autant de réponses à un stage comme ça, quoi. Et donc c'est trop bien, et donc oui, je pense qu'il y a un moment du banjo là maintenant, il y a une mode du banjo. Alors moi j'espère que c'est pas juste un effet de mode, que ça va durer, parce que c'est un instrument qui est super donc je fais le lobby permanent, mais en vrai ça fait grandement plaisir, parce que c'est vrai que quand moi j'ai démarré, on était 3 à en jouer, quoi. Ouais. Vraiment 4 à en jouer, quoi. Après, il y en avait déjà beaucoup dans les musiques traditionnelles, mais plus d'ailleurs, genre musique irlandaise, il y en a toujours eu du banjo. Musique américaine, évidemment. Après, c'est pas tout le temps les mêmes instruments. C'est-à-dire que moi, j'ai eu du banjo ténor, et dans les musiques américaines, il y a du banjo ténor, il y a aussi beaucoup de banjo 5 cordes.
Depuis combien de temps, en fait, c'est difficile à dater la naissance d'un groupe? Ouais, non, mais en fait, donc on fait partie des Braillots, le groupe fait partie de cette association-là, on est tous les quatre membres actifs et musiciens actifs de cette association-là, et on était déjà musiciens actifs avant... Et on était déjà musiciens actifs, en fait, avant de monter Miraillé. Et après, c'est des affinités musicales. On avait déjà un groupe avec Clémence avant, avec Eric Desgrugiers, dont on a parlé Antoine. Antoine jouait déjà avec Clémence. Louis ne jouait avec personne, et donc on a eu un peu... Non, mais en fait...
J'ai quand même joué avec Antoine pendant quelques temps, quand même.
Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on joue déjà les uns les autres dans différentes formules, que ce soit chez les Braillots ou à côté. Et là, bah, y avait l'envie de faire cette musique, enfin, faire de la musique de bal. On a commencé à trois sans Louis, et assez rapidement, Louis est arrivé, qui a créé quand même une autre musique, en fait. Ça a créé un autre... On parlait tout à l'heure de ce binôme de cornemuse, en fait. Ça a eu forcément... amené ailleurs, quoi. Et donc là, ça fait quoi, 3-4 ans qu'on est qu'on joue à 4 5 ouais.
Je sais pas,
en fait, on ne sait rien. Et voilà.
Mais en fait, c'est ça, parce ouais. que pour moi, ça fait plus longtemps, parce que c'était avant le Covid qu'on a démarré à 4. Donc, ça fait plus de 5 ans qu'on joue ensemble.
Vous vous souvenez pas cette résidence dans un labo chinois juste avant le Covid?
Non, mais en fait...
Jacques a fait tomber un truc.
Non, mais en fait, les processus de création de répertoire et le rapport à l'enregistrement, il est assez, ils sont assez différents selon les groupes. Et je sais pas, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que, en tout cas, chez les Braillots, c'est des processus assez longs de monter un répertoire. On a plutôt tendance à jouer le répertoire, le roder et fabriquer de la musique et de l'épaisseur avant d'enregistrer le disque. On n'est pas trop dans un truc où on monte le truc et on monte la musique et ensuite on enregistre, parce qu'on a besoin, on a la sensation qu'il faut la faire vivre et lui donner de la solidité avant de la fixer sur un support, quoi. Ça s'est souvent passé comme ça, les disques des groupes chez les Braillots, j'ai l'impression. Et pour nous, c'était aussi important parce que... Bah en fait, comme disait Jacques, on a démarré en trio, puis on était en quatuor, et puis on a tous les quatre des expériences musicales croisées et extérieures, et donc ça prend du temps de fabriquer un son et tout ça, et puis on n'a pas beaucoup joué aussi avant d'enregistrer ce disque, donc on a pris notre temps et on est bien content de l'avoir fait, parce qu'en réalité... On voit souvent, tu sais, des groupes de bal où tu dis en bal, ouais, c'est super vivant, c'est sauvage et tout ça. Puis tu écoutes le disque et t'es super déçu parce que c'est tout plat et tout propre. Et on n'avait pas envie de ça. Et donc, ben voilà, on est vachement content de... Enfin, on a l'impression, vous m'arrêtez si je me trompe, mais d'avoir réussi ce truc où, à fixer la musique telle qu'elle est en vrai, c'est-à-dire... bien sauvage et bien épaisse. Enfin, en tout cas, ça nous a permis ça, quoi, d'atteindre ce truc-là qu'on aime bien.
Okay. Je voulais rajouter un truc. Oui, je voulais compléter pour dire que, une des choses particulières des groupes, donc de l'association Les Braillots, c'est que les groupes de l'association Les Braillots jouent au bal de saison des Braillots, c'est-à-dire une fois par mois, il y a des bals pendant, de octobre à mai. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, on joue pas beaucoup, mais on a des occasions de jeu à la maison, entre guillemets. Mais là, c'est aussi, on a aussi envie de faire ce disque, déjà parce que faire un disque, c'est intéressant esthétiquement, et effectivement, ça fait faire des choses à la fois un peu différentes et parfois préciser des intentions peut-être. Et puis aussi, c'est un outil de diffusion, tout simplement, parce qu'on aime bien jouer à la maison, mais on aime bien voir d'autres, des nouveaux gens aussi, comme ce soir, par exemple. Thank you.
justement le dialogue cabrette-cornemuse, comment ça se passe, comment l'un fait la place à l'autre, comment vous faites pour pas vous marcher dessus?
On se marche dessus. Non mais alors il y a deux configurations de cornemuse. Il y a une configuration où moi je joue de la, où Jacques joue du pied de 39, donc en do, et moi je joue de la cornemuse 23 pouces. C'est beaucoup de chiffres, mais en gros on est à une octave de différence, ce qui fait qu'on se marche pas dessus parce qu'on est très distinct. Et après sur la partie en, on a une partie en ré, donc on est sur des instruments qui sont différents mais qui sont dans les mêmes tonalités. Donc on l'a ré, pour le dire vite, 14 pouces et pied de 35. Et en fait là on se mélange complètement. Voilà, on se mélange complètement. Après on a quand même fait un travail sur le tempérament par exemple pour oui, le tempérament c'est la distance qu'il y a entre chaque note. Par exemple sur un piano, la distance entre chaque demi-ton, c'est-à-dire en gros do, ré dièse, entre chaque, si on fait toutes les petites touches qui montent les unes après les autres, on dit que le tempérament est égal. Et dans la plupart des musiques traditionnelles, le tempérament n'est pas égal. C'est-à-dire que par exemple l'écart entre le do et le si n'est pas le même qu'entre le do et le ré par exemple, ou le do et le ré dièse en l'occurrence. Voilà. Donc on a travaillé sur ça, sur quelle couleur chaque note va avoir en fait. Et donc on fait des tempéraments similaires, mais il y a quand même des différences. Et comme c'est très commun, on joue beaucoup des mélodies en commun à l'unisson, ça se mélange beaucoup et effectivement au bout d'un moment on n'arrive plus à nous distinguer et ça fait une espèce de méta-cornemuse, une espèce d'olos bizardos.
En fait il y a un travail de jouer ensemble, mais aussi en fait il y a un travail de confrontation des cornemuses, en fait, de comment on se fait la place, tu disais comment on se marche dessus ou pas, mais il y a aussi un travail de quel rôle joue les cornemuses en fait dans la musique en général en fait. Et du coup on a quand même des rendez-vous l'un l'autre, plus ou moins improvisés, mais des rendez-vous de nappes, de bourdons qui sont pas que on joue la mélodie tout droit en fait, voilà. On a du phrasé commun, etc. Il y a un travail de justement comment on se marche pas dessus mais comment on fait ensemble, voilà.
Tu parlais d'épaisseur du son, de sauvage et tout ça. Alors comment vous, à part ces mots-là, comment vous définiriez ce que vous avez envie de faire? C'est quoi l'esthétique Mirayet et qu'est-ce que vous tendez à faire avec ce groupe? Plus qu'avec, ou avec peut-être tous vos groupes, et y compris dans celui-là, je ne sais pas.
Moi, ce que je sens, c'est que dans Mirayet, il y a aussi une digestion de nos pratiques personnelles. Et que c'est un peu un endroit où, je vais parler de moi pour parler de ça parce que ça sera plus parlant. J'ai l'impression que moi j'ai fait des groupes Rayo, des groupes dans le son très, il y a une typicité du son Rayo. Donc ça sonne comme chez les Rayo.
Voilà.
C'est compliqué, mais parce qu'il faudrait écouter un panel historique des CD de l'association, mais il y a une typicité. Donc on l'a fait avec Clémence, notamment ensemble, séparément aussi, mais on a un peu essuyé ce truc-là. Jacques l'a fait aussi, parce qu'il est arrivé suffisamment tôt dans l'association pour un peu s'imprégner de ce truc-là. Louis est arrivé un petit peu plus tard, il le fait aussi, tu vois, il s'imprègne de ce son-là. Et avec Mirayet, en fait, on arrive avec chacune nos pratiques de musicien et on va essayer de vraiment distiller tout ce qu'on a le meilleur de nous-mêmes pour rendre ce groupe-là de balles, vraiment de balles, hein, parce qu'on a chacun et chacune aussi des pratiques d'autres musiques, qui sont des musiques soit que enregistrées, soit des musiques plus expérimentales, soit des musiques de concert mais d'improvisation, qui sont que portées sur le timbre. Pas du tout des musiques à danser. Et en fait, dans Mirayet, on s'autorise ensemble tout ça, en fait. Et de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on arrive à construire un propos avec tout ce qu'on aime le plus dans nos musiques individuelles. Et du coup, on arrive à construire un discours commun autour de ça, qui donne le son qu'on a. Et c'est ça la recherche, en fait. C'est ça la recherche, c'est vraiment d'aller gratter des endroits où nous on a acquis des savoirs en fait sur des timbres, sur des manières de faire la musique qui sont pas des musiques à danser, et comment on les applique à cette musique à danser. Moi, pour moi, c'est un peu le terrain de jeu de Mireille, il est là en fait. Et tu vas l'entendre ce soir, en fait, il y a des morceaux, des fois, ça va gratter très fort à des endroits, c'est à la limite de la danse pendant un certain moment, mais il y a toujours le moteur, quoi. Il y a toujours le moteur de la danse qui est derrière et qui avance, quoi. Voilà, en gros. Pour moi, c'est ça.
Je veux bien rajouter quelque chose parce que je trouve que cette question du son braillot, elle est intéressante, et puis de savoir aussi comment Mireille situe par rapport à ça. Donc je dirais que ce qui est commun au son braillot et au son de Mireille, c'est un appétit pour les belles mélodies, à la fois des mélodies traditionnelles et puis des compositions. Il y a un petit quart de composition dans le set de Mireille, je dirais, un truc comme ça. Il y a une recherche de lyrisme là-dedans, dans les compositions et dans les mélodies traditionnelles et dans nos manières de les jouer, de trucs où on se laisse emporter un peu par la mélodie. Et donc c'est la mélodie qui nous conduit à une espèce de folie qui fait qu'on sort de la mélodie, qui fait qu'on va chercher dans les timbres, dans les contrechamps. Ça nous conduit aussi à une épaisseur de son. Donc là, tu vois, t'imagines banjo, violon, deux cornemuses, ça fait un son quand même assez, assez dense, ouais, dans le spectre. Il y a un gros appétit de l'ornementation et de jouer avec ça et de se répondre les uns les unes les autres là-dessus. Donc c'est des petits trucs de, c'est pas de geek, mais de grands spécialistes, mais c'est du jeu autour de la mélodie qui confine à l'improvisation, mais qui reste dans le domaine des musiques traditionnelles parce qu'on sort pas de la mélodie. Et puis dans ce qui fait le son braillot, je pense que c'est aussi un appétit pour la cadence des musiques à danser, quoi. Et donc une assise rythmique des mélodies de danse, quoi. Ça, c'est ce qui nous lie avec le son braillot. Et puis il y a enfin, je crois, des belles chansons toujours dans ce truc un peu lyrique, qui parfois tire un peu les larmes, en tout cas avec une petite saveur pop qu'on aime bien aussi. Et donc qu'on fait un peu, qu'on essaye de raccorder, de tricoter avec une envie de son un peu sauvage, un peu improvisé, et un peu épais dans le timbre, un peu bruitiste aussi, de cultiver cette épaisseur de timbre. Et à la fois, on le tricote avec un truc assez pop parce qu'on aime bien, nous aussi, tu vois, cette saveur-là, quoi. Voilà, je crois que c'est ça le son Mireille et Braillot.
Avec Jacques, on fait partie de la Novia, et du coup on est imprégné de ces envies de son. Mais en fait, la Novia, c'est un groupe de personnes qui s'est construit autour d'esthétiques particulières, mais en vrai, une partie de ces esthétiques, les gens de Mireille, c'est des esthétiques qui pratiquent. Mais en fait, plein de gens dans les musiques trad, c'est des esthétiques qui pratiquent aussi. C'est juste que la Novia, on va tirer ces fils-là plus profondément. Le rapport qu'il y a directement, c'est l'amour de cette idée de timbre, de cette idée de recherche musicale sur des endroits où qui sont pas la mélodie directement, qui sont pas forcément les textes et la mélodie des textes directement, qui sont plus dans des endroits d'aller chercher des histoires de timbres et de saturation qui sont ailleurs dans la musique, quoi. C'est peut-être l'endroit où on se retrouve avec Mireille en commun avec le collectif La Novia, quoi.
Ouais, et il y a l'expression du timbre, l'expression du bourdon et de la répétition, ouais. En fait, une appétence pour la répétition aussi, ouais. Et la variation, en fait, du coup, qui est induite pour moi avec la répétition, qui est quand même commune. En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que pour moi, il y a une filiation directe, parce qu'en fait, on fait partie des deux, et que du coup, en fait, on n'est pas des musiciens différents d'un côté à l'autre, donc voilà.
Alors, on entendait tout à l'heure Louis-Jacques nous expliquer ce que signifie le tempérament en musique. On y reviendra aussi à l'occasion d'une émission sur la Nove, le collectif dont parlait juste à l'instant Jacques Puech et Antoine Cognet.
Voilà, et sur lequel on reviendra plus en détail dans une émission très bientôt.
Voilà. Mais pour revenir à cette idée de tempérament, donc pour celles et ceux qui n'auraient pas bien suivi, il s'agit donc de l'écart entre les demi-tons. Donc sur un piano ou sur un accordéon ou sur tout autre instrument dit tempéré, cet écart est toujours le même. Mais sur la plupart des instruments traditionnels, ça n'est pas le cas. En tout cas, ça ne l'était pas. Mais la lutherie les a bien souvent fait évoluer pour quitter leur rôle de soliste au tempérament inégal pour pouvoir jouer avec notamment l'accordéon diatonique qui est en plein boom pendant les années du revival folk dans les années 70. Voilà, cette histoire, c'est le livret d'un disque sorti en 2018 qui s'intitule « Baoussac » d'Arnaud Bibonne qui nous l'apprend. Alors s'il rend un bel hommage aux luthiers du revival folk qui ont justement tempéré ce Baoussac, donc la cornemuse landaise qui est aussi appelée « bou », et alors ces luthiers qui ont permis du coup que la boue ne tombe pas dans l'oubli, l'entreprise d'Arnaud Bibonne, elle, est justement différente. Elle est de retrouver ce son originel des baoussacs non tempérés d'avant les années 1970. Donc pour ça, il enregistre ce disque d'air traditionnel joué sur 5 copies d'instruments anciens au tempérament inégal donc. Alors, le livret du disque, c'est vraiment une mine d'informations. On y trouve le portrait de quelques joueurs de Baoussac du début du XXe siècle, qui, pour certains, ont été enregistrés sur rouleaux de cire. Donc, vraiment, le début du collectage, quoi.
Enregistrements.
Et oui, des enregistrements, parce qu'à part les collectages écrits, en tout cas, le début de ce qu'on peut entendre comme collectage. Donc, c'est assez émouvant, même si on n'entend pas les collectages en eux-mêmes. Voilà, on a des détails sur les instruments, des photos de ces reproductions, des nombreuses sources. Enfin voilà, si vous intéressez de près ou de loin à la cornemuse, c'est vraiment précieux. Par ailleurs, peut-être que du coup, cette description vous semble que le disque soit austère, sérieux, érudit, ou alors pour peut-être pour oreille 5 étoiles, mais pas du tout. Le disque est magnifique.
Dire, il n'est pas érudit, tout ça.
Certainement.
Non, il n'est pas seulement ça.
Voilà.
Il n'y a pas besoin d'être ethnomusicologue pour apprécier. Peut juste apprécier la musique. C'est ça.
Voilà,
que je veux dire,
voilà. Même si vous comprenez rien à cette histoire de tempérament, laissez-vous juste porter par les mélodies et puis le son impeccable d'Arnaud Bibonne qui est très présent. Alors, on vous laisse déguster cette suite de rondo à l'entorne de ma maison et Devat Lopei Neijo Junkets, où on entend particulièrement ce tempérament inhabituel au tout début du morceau, quand la cornemuse fait un appel. Voilà. Sur ce morceau, Arnaud Bibonne est accompagné par Simon Guillaumin à la vielle à roue et Camille Rébaud au violon.
Thank you.
Mais quelle belle transition dans l'écho du parquet aujourd'hui, où on oscille un peu entre deux pôles esthétiques à l'intérieur du monde du trad, manifestement. Entre le, on a eu la cornemuse non tempérée à l'ancienne d'Arnaud Bibonne, et là, c'était des sons beaucoup plus néo-trad, jazzy, avec la clarinette. Et c'était une valse qui s'appelle « Le roi fait battre tambour » par le groupe Dimash sur leur album « Dernière noce ». Alors, il s'agit d'un groupe qui avait déjà sorti en 2017 un premier album en format trio et qui en a ensuite publié en 2020 un deuxième, celui dont on vient d'écouter un extrait, en sextet, à une époque donc où l'écho des parquets n'existait pas encore, et c'est pour ça qu'on ne vous en avait pas parlé à l'époque. Voilà.
Le trio,
on rattrape notre retard. Voilà. Le trio est constitué de Céline Goupil, violon, accordéon, diatonique, voix, Didier Boire, accordéon, diatonique, voix, et Sylvain Ahon, saxophone, soprano, voix. Voilà. Alors peut-être c'était un saxophone soprano, pas une clarinette, c'est toujours difficile. Et ils avaient été rejoints par Peril Liogé, uniquement à la voix, au chant, Romain Morel au violon et Frédéric Pouget aux clarinettes. Voilà. Et cette idée de passer au sextet a émergé lors de l'excellent festival Les Basaltiques, organisé par le CDMDT 43. Et depuis, le groupe anime des bals sous ces deux formats, à 3 ou à 6, comme vous voulez. Leur répertoire repose essentiellement sur des collectages qui ont été effectués en Haute-Loire et dans la région du Puy-en-Velay, dont ils sont originaires. Des collectages un peu parfois anciens, il y en a de plusieurs de 1946, ou beaucoup plus récents, comme la valse que nous venons d'écouter, qui semble avoir été collectée en 2005. Ils ont choisi beaucoup de chansons parmi ces collectages parce qu'ils font le choix de mettre beaucoup en avant les voix, et notamment celle de Perrine Liogé, même si on trouve aussi sur cet album des morceaux plus instrumentaux ou uniquement instrumentaux. Notamment celui avec lequel nous allons nous quitter aujourd'hui, qui illustre la variété du disque et qui nous permet de balancer d'un pôle esthétique à l'autre, puisqu'il sonne très très différemment du précédent et qui emprunte des chemins plus bruitistes dont l'équipe de Miralet nous parlait. Voilà, c'est une bourrée à trois temps qui est intitulée « La Luminière » et c'est la seule compo de l'album qui est une œuvre collective du groupe. On vous laisse avec Dimash et on vous dit à la prochaine.
Tu vas quand même nous dire ce que ça veut dire, « Aluminière »
Je ne sais pas, t'as regardé toi ?
Non.
Moi non plus. Bon ben ce sera le mystère. Au revoir. Yeah.